7-9.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 décembre. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la vaccination des enfants des moins de 12 ans qui n'attend plus que le feu vert du comité d'orientation vaccinale pour débuter dès cet après-midi et nous serons dans un centre déjà prêt à les accueillir. Les autres titres Anaïs.
Nous serons aussi en Grèce où le pass sanitaire ne fait pas l'unanimité. Des microplastiques retrouvés dans l'air des Pyrénées au pic du Midi et Turandot à l'Opéra Bastille comme un tableau de peinture chinoise.
Les invités de cette matinale sur France Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra Ben Saïd.
C'est le président du Paris Football Club Pierre Ferracci, enquête en cours sur les incidents qui ont interrompu la rencontre avec l'OL vendredi dernier. Pourquoi depuis le début de la saison cette violence dans les stades? Comment y mettre fin? Rendez-vous à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le porte-parole de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, le député du Nord du Rassemblement National, Sébastien Chenu sera avec nous. Vous lui posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Déjà deux feux verts et le gouvernement n'attend plus que le troisième pour lancer la vaccination des enfants contre le Covid-19. Dernier avis attendu ce matin, celui du comité d'orientation vaccinale. Les premiers volontaires pourraient donc passer à la piqûre dès cet après-midi. On rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour les 5 millions d'enfants de 5 à 11 ans. Les centres de vaccination ont mis en place des files spécifiques ou comme ici dans le 10e arrondissement de Paris, carrément un lieu à part. Le reportage de Véronique Julia.
Et voilà, les enfants seront accueillis à cet endroit.
Dans ce centre de santé de l'avenue Richerand à Paris, tout le sous-sol flambant neuf avec ses trois box de vaccination va pouvoir accueillir dès jeudi jusqu'à 200 enfants par jour. Pour l'instant, ça ne se bouscule pas encore sur le carnet de rendez-vous, mais la responsable médicale du centre, le docteur Jeanne Villeneuve, s'y attendait.
On ouvre des créneaux le 22 et le 23 décembre, en plein milieu des vacances scolaires, deux jours avant Noël.
Dans la salle d'attente, tout est fait pour mettre les enfants en confiance. Il y a des jeux, des livres, des coloriages, un sapin de Noël, des bonbons. Des bonbons, on en retrouve aussi dans les box, ils aideront à faire passer la piqûre.
Vous attendez à des larmes et des cris.
Oui, toujours un peu en pédiatrie. Mais justement, on est bien préparé pour s'occuper d'eux et les rassurer.
Le bonbon, c'est avant ou après la piqûre?
On donne un peu quand ils veulent.
Ici, on a prévu 10 minutes à peu près par rendez-vous. C'est bien plus long que chez les adultes, où la piqûre de rappel n'excède pas 2 minutes. Avec les enfants, on veut prendre le temps. C'est d'ailleurs pour ça que leur vaccination se fait dans un lieu dédié.
Aujourd'hui, à la mairie du 10e, on fait 1500 patients tous les jours. C'est grand, c'est impressionnant. Là, c'est totalement différent. On voulait que ce soit pas une vaccination à la chaîne. Expliquer ce qu'on fait, s'assurer que tout le monde a bien compris. Je crois qu'ici, on est beaucoup plus à l'aise pour le faire.
Comme les adultes, les enfants resteront 15 minutes après le vaccin pour vérifier que tout va bien. Les créneaux de rendez-vous sont pour l'instant limités à quelques demi-journées. Si la demande est forte, le centre ouvrira des plages plus nombreuses.
Et la vaccination des enfants qui, selon certains pédiatres, ne résoudra pas dans l'immédiat la question de la circulation du virus qui reprend de plus belle, spécifiquement chez les 20-40 ans. Particulièrement concernés par les fermetures de discothèques et l'interdiction des rassemblements festifs du 31. Pas de conseil sanitaire aujourd'hui, mais le Premier ministre prévient qu'il ne s'interdit rien. Qu'y aurait-il sur la table en cas de nouvelles mesures? On voit ça avec vous, Maxence Lambrec.
Prolonger les vacances scolaires jusqu'au 10 janvier, une semaine de plus, c'est une idée souvent avancée, toujours rejetée. Ultime recours, dit le porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Éducation s'y oppose fermement. Emmanuel Macron y est défavorable. Si c'est pour laisser une semaine les enfants aux grands-parents, on se tire une balle dans le pied, ajoute un député de la majorité. Le couvre-feu à 20h, le 31 décembre au soir. Est-ce nécessaire de l'imposer, s'interroge la Macronie. Les Français ont compris le message, pas besoin de les infantiliser. Les forces de l'ordre sont dans la rue pour éviter fêtes sauvages et ventes d'alcool. Le retour des jauges à table dans les bars et restaurants, c'est une hypothèse, admet un conseiller ministériel. Cela pourrait être vite efficace. Du télétravail obligatoire, on s'y dirige doucement, puisque le pass sanitaire en entreprise ne verra pas le jour demain, un moindre mal pour syndicats et patronats. Mais Emmanuel Macron veut passer Noël, attendre de voir si une partie des jeunes contaminés par le variant Omicron finit à l'hôpital. On manque toujours de recul, regrette Matignon. Les Anglais ne touchent à rien, les Allemands verrouillent. Difficile de trancher.
Et quant au pass vaccinal, le gouvernement vise une entrée en vigueur dès le 10 janvier. Il remplacera le pass sanitaire. En Finlande, les bars fermeront à 21h la veille de Noël et tests obligatoires pour entrer dans le pays. En Grèce, les services de réanimation sont saturés. Le pays avait plutôt bien géré le début de la crise. Il s'est résolu à adopter le pass sanitaire en novembre, qui est loin de faire l'unanimité. Le reportage d'Angélique Cournis.
Noël approche et les rues du pays sont illuminées. Pour l'instant,
Aucun spectacle de fin d'année n'a été annulé en Grèce. Les cinémas et théâtres restent ouverts, mais uniquement pour ceux et celles qui ont le pass sanitaire. Pour les autres, le quotidien est un enfer.
T'as plus droit à rien, il y a des mesures restrictives pour tes courses, tes sorties, si tu peux sortir tout court. Tout ce qui te reste, c'est faire un tour au parc. C'est une des rares choses où il n'y a pas encore de contrôle.
Dans les tavernes, bars et cafétérias qui pour l'instant restent ouverts, la colère gronde. Ce Tiris, patron de bar, est excédé.
On a fini par faire le travail des flics, contrôler des papiers. J'avais des clients qui n'étaient pas tous vaccinés. Le samedi, ils sont venus pour un café, je leur ai demandé le test et certains m'ont dit « on ne l'a pas, au revoir ». Et ils se sont levés et ils sont partis. Forcément, ça se sent dans mon chiffre d'affaires. Ces clients-là ne vont peut-être pas revenir.
Les mesures restrictives se multiplient. Désormais, un test PCR est exigé pour rentrer dans le pays, même pour les vaccinés. Et d'ailleurs, le passeport sanitaire des plus de 60 ans sera annulé 7 mois après leur dernière injection, à moins qu'ils ne se soumettent à la troisième dose du vaccin. Athènes, Angélique Couronis pour France Inter.
Et même une quatrième dose de vaccin. C'est en Israël annoncée cette nuit pour les plus de 60 ans. Les personnes fragiles et les soignants nous seront sur place à 8h. Le vaccin permet aussi à Joe Biden d'appeler ses compatriotes à ne pas paniquer. Nous avons plus d'outils que nous n'en avons jamais eu, dit le président américain. Il y a un an pile, en effet, l'Agence européenne du médicament autorisait le Pfizer-BioNTech. Et dès février, elle demandait au laboratoire de se préparer à modifier les vaccins existants pour les adapter. Trop tôt, cependant, pour Omicron, dit la directrice de l'agence, Emer Cook.
Omicron est au premier plan des préoccupations de chacun. Nous sommes prêts au cas où il y aurait besoin de changer les vaccins et les thérapeutiques existants. Mais je souligne qu'il n'y a encore aucune réponse à la question de savoir s'il nous faudra adapter un vaccin avec une composition différente pour s'attaquer à ce variant ou à tout autre qui émergerait. Ces questions restent ouvertes, mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y aura pas besoin de recommencer à zéro grâce aux connaissances accumulées. Avec 5 vaccins et 6 traitements, nous sommes en bien meilleure posture qu'il y a un an. Nous avons beaucoup plus d'outils à notre disposition.
Emer Cook, la directrice de l'Agence européenne du médicament, et sur franceinter.fr, retrouvez les 5 chiffres qui montrent la progression fulgurante d'Omicron en France.
7h07, Anaïs Feuga. Prenons un bon bol d'air frais des montagnes.
Oui, un grand bol de plastique, en fait. On le savait présent dans les océans. On découvre que l'air des sommets des Pyrénées contient lui aussi des microparticules de plastique à 2877 mètres d'altitude au pic du Midi, apportés par le vent, la pluie et la neige, s'en dit Dauphin.
Les chercheurs ont utilisé une pompe installée à l'observatoire du Pic du Midi pour aspirer de grandes quantités d'air. Ils ont ensuite analysé les filtres et ils ont trouvé entre 1 et 2 microparticules de plastique tous les 4 mètres cubes d'air. Des fragments si petits qu'ils sont invisibles à l'œil nu, explique Gaël Leroux, chimiste de l'environnement au CNRS, Université de Toulouse, co-auteur de l'étude.
On s'est focalisé sur les particules qui ont une taille 10 à 100 fois plus petite que le millimètre. Les concentrations qu'on a retrouvées dans l'air, elles sont quand même largement inférieures à celles qu'on peut retrouver dans les grandes villes, mais elles sont pas négligeables. Je vais parler plutôt de contamination plutôt que de pollution. L'air est quand même très pur, mais c'est la première fois qu'on montre que cette couche au-dessus des nuages est aussi contaminée au plastique.
Ces microparticules proviennent de la fragmentation des déchets plastiques. Elles ont été apportées par la pluie, la neige, le vent, et elles peuvent venir de très loin.
Grâce à des modèles atmosphériques, on a pu reconstituer le voyage de ces plastiques et on a pu montrer qu'ils voyageaient plus d'une semaine jusqu'au pic du Midi, jusqu'au sommet des montagnes, et qu'ils venaient soit des grandes zones urbaines, soit aussi même des océans, et qu'ils étaient réémis via les aérosols marins dans la haute atmosphère, et qu'après ils étaient transportés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres jusqu'au pic du Midi.
Certaines microparticules de plastique retrouvées au pic du Midi proviennent même d'Afrique, d'Amérique du Nord et de l'océan Atlantique.
Et l'étude du CNRS a été publiée dans Nature Géosciences. Notez qu'en Île-de-France, à peine 14% des déchets plastiques sont recyclés. Un immense pas dans le dossier très sensible du chlordécone aux Antilles. Les cancers de la prostate liés à l'exposition à ce pesticide sont reconnus comme maladie professionnelle. Le décret vient de paraître. Concrètement, cela ouvre la voie à une indemnisation pour les victimes. Le chlordécone massivement employé dans les bananeraies des Antilles a pollué les sols, les eaux pour des centaines d'années et contaminé plus de 90% de la population adulte. On en parle à 7h30. Et puis le piton de la Fournaise est entré en éruption pour la seconde fois de l'année à La Réunion. 3 fissures sur le flanc sud du volcan réunionnais dans l'enclos apparu cette nuit. Allez, on n'oublie pas que le réveillon, c'est dans deux jours. Les dernières courses en boutique pour les cadeaux. Dernière livraison aussi. L'habitude s'est bien installée. En première ligne, les relais colis finissent le rush. Reportage de Delphine Evenoux à Paris.
Boutique d'optique, pour ne pas faire des ordres, Mohand Touari, le patron, case les colis dans une grande armoire noire.
On va dégager ce qu'il y a là et mettre des colis.
Depuis quelques jours, montée en puissance.
Au début, on recevait les 6-7 colis. Là, maintenant, on est vers 15-16 colis par jour. Là, le Covid, il est en hausse. Les gens, ils sortent pas, donc ils font leurs achats sur Internet.
L'opticien fait relais colis depuis un mois et demi. À quelques stations de métro, Leïla et Salah s'y sont, eux, mis il y a 10 ans. 6 transporteurs à gérer. Et voilà leur magasin d'accessoires pour animaux redécoré de boîtes marron.
Beaucoup de colis, beaucoup de passages.
Tout ça s'était rempli, y compris le sol.
Jusqu'à samedi dernier, c'était encore difficile de circuler. Depuis, ça va mieux.
Maintenant, bon, les gens ils sont passés récupérer leurs colis parce que c'est pareil, il y en a plein qui sont partis en province pour passer leurs vacances en famille.
Clients bien organisés, le pic d'activité colis, c'était il y a un mois, voire plus.
Les retardataires, cette année, on n'en a pas beaucoup, contrairement aux années passées. J'ai des clients, fin octobre, leurs cadeaux, ils étaient bouclés. À un moment, pendant les infos, on entendait toujours pénurie. Et pour les jouets, les gens, ils se sont pris bien à l'avance. Voilà.
Ce qui n'empêche pas le bal des clients de continuer, comme les livraisons à domicile, avec un pic à 4 millions de paquets par jour pour la Poste.
Reportage de Delphine Evenoux. Vendredi, jour du réveillon, devait être aussi celui du lancement du télescope spatial James Webb. Mais troisième report à cause là des mauvaises conditions météo à Kourou. Le lancement devrait avoir lieu le jour de Noël. Beau cadeau pour les astronomes qui attendent depuis 3 décennies. Plus que quelques jours pour découvrir la nouvelle version de Turandot, l'opéra de Puccini, l'histoire de cette princesse chinoise cruelle. C'est en ce moment à l'Opéra Bastille à Paris, dans une mise en scène à la fois colorée et statique de l'américain Bob Wilson. Stéphane Capron.
Bob Wilson est un passionné d'art asiatique. Sa mise en scène est fortement inspirée du théâtre No, avec des images et des lumières toujours aussi soignées et un plateau dépouillé de tout ornement. Il fait des personnages de cette légende chinoise des marionnettes. Le chœur et les solistes sont le plus souvent alignés les uns à côté des autres, sans bouger. Une performance inédite pour la soprano Elena Pankratova.
Je ne prends pas cela comme une difficulté, mais comme un défi. C'est une nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle expérience, mais c'est aussi très spécial pour la voix. Et cette combinaison entre la voix et les mouvements demande beaucoup de concentration.
Et le seul qui bouge dans la salle, c'est le chef d'orchestre, Gustavo Dudamel.
Être statique ne signifie pas qu'il n'y a pas de mouvement. Parfois, même un petit geste signifie beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis celui qui bouge le plus.
Gustavo Dudamel, par sa direction énergique, insuffle à l'ultime opéra de Puccini de la passion et de la chaleur qui tranche avec la mise en scène figée de Bob Wilson.
Turandot de Puccini, c'est à l'Opéra Bastille de Paris et c'est jusqu'au 30 décembre donc.
Merci Anaïs Feuga pour ce journal. Dans 3 minutes, le Zoom, nous serons à Toulouse, au centre de consultation médicale maritime.